Man, there's supposed to be a million and a half people here by tonight. New York State Thruway is closed, man.
Hello to all friends, resistance, revolution in America.
We must be in heaven, man. There is always a little bit of heaven in a disaster area.
How are you out there?
La série musicale d'été. Woodstock, éternel, été. Elodie Mayo.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue toute cette semaine dans la série musicale Woodstock, l'éternel été, pour entendre quel mur a fait tomber ou trembler ce rassemblement de musique, de paix et d'amour il y a 50 ans. Aujourd'hui, Woodstock, hors les murs.
Que penser de ce festival de l'île de Wight 70? Ce ne sera peut-être pas Woodstock, mais quelque chose d'approchant. L'ambiance y a été pendant une semaine survoltée, les contacts inoubliables pour des yeux d'adolescents à la quête de la vie. Il y a eu des incidents, oui, mais personnellement, je m'étonne qu'il n'y en ait pas eu plus, avec une foule de 250, 300 000 jeunes exaltés. Les organisateurs, eux, ne sont pas satisfaits, ils auraient même perdu, dit-on, de l'argent, c'est possible, encore que personnellement, j'en doute fort. Mais ce qui est certain, c'est que des rassemblements de ce genre, aussi gigantesques, deviennent impossibles. Ils sont trop importants. Il faudrait une organisation très puissante pour les préparer, les canaliser, et alors on y enlèverait toute la spontanéité qui fait la réussite du genre. Il faut, je crois, en venir au festival gratuit, supporté par la publicité, pourquoi pas, ou, comme l'a dit John Baez en quittant ce qui sera peut-être le dernier des festivals pop, en laissant aux jeunes le soin de monter eux-mêmes leur spectacle. De gentilles vedettes viendraient y chanter gentiment pour son gentil public. Encore un rêve, mais pourquoi pas? On en a besoin un lendemain de festival.
When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn out the lights, turn out the lights, turn out the lights.
Hey. Bienvenue dans nos lendemains de la veille, quand les décibels se taisent et que la voix est cassée, les traits tirés, qu'il faut ramasser les mégots et les gobelets écrasés dans l'immense champ déserté. Quand la fête est finie, and the music is over, comme le chantent les Doors ici sur l'île de Wight, un an après Woodstock, il faut alors reprendre une vie normale, dormir. Quand vient l'heure de charger les camions, de replier les câbles et de ranger les micros, de démonter la scène et de payer tout le monde en cash, c'est aussi le moment de penser au prochain festival, à la nouvelle aventure. Alors bienvenue dans nos utopies estivales, qui renaissent sans cesse après Woodstock. Woodstock 2019 vient d'être annulé cet été, mais aujourd'hui encore, on va rêver en musique et on va inventer des modèles, créer des villes au milieu de nulle part. Aujourd'hui encore, on va soutenir des causes et monter des pratos, faire des balances et des rencontres. On va être fiers et noirs. On sera à Alger ou à Accra, à Woodstock, ou à Carhaix, à Kinshasa ou à Glastonbury, devant 100 000, 200 000, peut-être même 400 000 personnes. On sera dans les grandes messes qui vont naître après Woodstock. Le Woodstock européen, le Woodstock du Gers, le Woodstock noir, le Woodstock en plein désert, Woodstock africain, bref, en pleine nature ou dans des stades bondés, des rendez-vous inoubliables qui cherchent un label et un public. Venez, c'est l'été, la nuit est longue et on vous donne un pass all access pour changer le monde en musique. Ici, on vit le moment présent et on ne sait pas de quoi demain sera fait.
Brothers and sisters! Brothers and sisters! I don't know what this world is coming to, the soul children!
Bring on down. Ladies and gentlemen, we are the soul children!
Oh yeah! Ha!
And we came all the way from Memphis, Tennessee.
Oh yeah.
And we want you to move with the spirit.
And another thing we want you to do.
Oh yeah.
Clap your hands with the spirit.
Look. Come on. Come on.
Yo.
protest is putting brother against brother. Juvenile delinquency is putting child against mother.
Man is in an awful hurry to go in the space. He's building mighty weapons to kill off the human race. But I don't know.
I don't know what this world is coming to.
I don't know.
I don't know what this world is coming to.
Chaque année, avant l'ouverture du festival de vieilles charrues à Carré en Bretagne, la tradition veut qu'une vraie charrue trace un sillon dans la terre et que l'on y sème des graines pour l'avenir. Une tradition qui ancre l'esprit du festival sur cette prairie qui accueille chaque été plus de 200 000 spectateurs. Et c'est, paraît-il, le plus grand festival musical de France. Alors l'étiquette, très convoitée, donc chaque année il faudra réévaluer le nombre exact de spectateurs pour valider ce label. Mais cette année, à Carré, qui est désormais jumelé avec Woodstock, à Carré, notre petit Woodstock gaulois donc, tout s'est bien passé, le public a pu applaudir Booba, David Guetta, Iggy Pop. Et pourtant, le maire actuel de la ville s'inquiète. Dans le journal Le Monde, il accuse le festival de devenir un événement hors sol qui profite moins aux commerçants qu'avant. Pourtant, c'est bien lui, Christian Trodec, qui a cofondé ce festival en 92 avant d'arriver à la mairie. Monter une ville éphémère dans un champ chaque été lui avait donc donné les clés de la municipalité, comme à d'autres directeurs de festivals d'ailleurs, comme à Jean-Louis Guillaumont à Marciac dans le Gers, à Daniel Rosselin en Suisse, à Nyons où se tient le Paléo Festival, ou encore à Carlo Di Antonio à Dour en Belgique. Mais comme chaque année, l'ex-boss des vieilles charrues a peur que l'esprit des lieux ne lui échappe, que ça dérape, que le festival perde son âme, ne disparaisse ou même qu'il mute, un peu comme le festival de White qui a bien changé, mais qui en 69 attirait des vedettes, y compris dans le public.
Georges Moustaki, pourquoi êtes-vous allé à l'île de White ?
Je suis allé par curiosité pour voir une forte concentration de tous ces jeunes gens qui appartiennent au mouvement hippie, au mouvement très politisé quand même. Parce qu'ils allaient entendre des chanteurs engagés, ils allaient se retrouver entre eux dans une certaine communauté sociale, disons. D'ailleurs, c'est très, très curieux, moi qui viens des pays du Moyen-Orient, j'ai retrouvé un climat de souk arabe. C'était une fête de nomades. Et une population improvisée qui doit vivre 3 jours ensemble. Ils étaient 300 000 avec tous les besoins de nourriture, de dormir, etc. Et c'était. J'ai vu qu'ils étaient organisés, qu'ils savaient vivre en communauté, qu'ils avaient un sens, une harmonie.
Sei l'isola di White e per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù di chi canta hippi 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 hippi. Al mercato un dì andai così per curiosare qui e là e non sapevo cosa fare. Fra divise blu e giacche lunghe di lame ho visto te, miraggio bianco intorno a me. Sai cos'è? L'isola di White e per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù di chi ama ippi, 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 ippi.
Michel Delpech et son fameux tube White is White, dédié au festival britannique, ici en version italienne, chanté par Delpech lui-même. Alors je vais traduire, c'est comme un soleil dans le gris du ciel, toi qui as voulu t'emprisonner, as-tu le droit de condamner celui qui cherche à s'évader ? White is White. Le festival, comme parenthèse enchantée, juste après Woodstock en 69, année où Georges Moustaki se mêle aux spectateurs. Et pourtant, le festival de l'île de White va, paraît-il, perdre son âme et son innocence, Peace and Love, l'année d'après, en 1970.
Les quelques centaines d'excités ou de voyous qui ont cassé des palissades et pillé quelques échoppes à l'île de Wight n'auront pas trop troublé la quiétude des 300 000 jeunes venus écouter leur musique préférée. Pourtant, l'âge d'or des festivals de pop semble bien révolu. L'équilibre miraculeux qui avait régné à Woodstock et au premier festival de Wight entre les commerçants de la chanson et l'esprit hippie est désormais brisé. Les dirigeants du festival annoncent un énorme déficit et en face, certains jeunes réclament des festivals gratuits et resquillent au nom de la contestation. Parmi eux, quelques 200 Français se disant anarchistes ont fait beaucoup parler d'eux, provoquant ainsi la colère des organisateurs, mais aussi celle des autres jeunes Français, hippies ou non.
Sur l'île de Wight en 1970, le site du festival a été déplacé et les habitants de l'île ont bariolé les panneaux pour dérouter les hippies parce que certains redoutent qu'ils ne propagent des maladies comme l'homosexualité ou la dépendance à la drogue. Shame on you. En tout cas, de plus en plus de gens arrivent quand même sur l'île et les sanitaires sont insuffisants. Le camping est même surnommé Desolation Hill, la colline de la désolation. Et pour ne rien arranger, le vent souffle vers la scène et rend la musique parfois inaudible. En 1970, un spectateur interrompt même le concert de Johnny Mitchell pour dire « Ces festivals deviennent des camps de concentration psychédéliques où les gens sont exploités. » Fini le paradis des festivals.
J'étais un peu heurté quelquefois par tout l'appareil commercial qui a réussi à créer ce festival mais qui en même temps l'exploite. Bon, c'est d'ailleurs encore un phénomène très anglo-saxon. Ce gentleman agreement qui existe entre ce qu'on appelle avec souvent du mépris les beatniks, les hippies, et une sorte de bourgeoisie provinciale de l'île de Wight. Dans les pays anglo-saxons, il y a une forme de liberté traditionnelle qui permet des réunions comme l'île de Wight, où pendant 3 jours, on va leur foutre une paix royale. Ils se sentiront pas frustrés et tout se passera très bien.
Si Georges Moustaki rêve d'apporter cette liberté anglo-saxonne, c'est peut-être parce qu'en France, après mai 68, c'est difficile d'imaginer qu'un tel événement puisse avoir lieu. En octobre 69, la France interdit le Paris Music Festival. Résultat, l'événement se transporte dans un champ belge à Amougies, avec comme maître de cérémonie Frank Zappa, qui improvisera même avec les Pink Floyd sur scène. La programmation est originale, elle mêle pop, jazz et musique contemporaine avec 38 groupes, dont 10 Years After, l'Art Ensemble of Chicago, Pink Floyd, Don Cherry, Archie Shepp ou Capitaine Beefheart.
Zigzag, 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 zig
petit village belge d'Amougy, en cet automne 69, où jouait donc Captain Beefheart, comme à Woodstock, le défi est logistique. Accueillir, héberger et nourrir les spectateurs qui arrivent en voiture, en bus et même en mobylette, ils seront près de 80 000, et tout se passera sans violence. Pourtant, malgré son succès, ce festival tombe dans l'oubli. Peut-être parce que, faute de paiement des droits d'auteur aux artistes, aucun enregistrement live de ce Woodstock européen n'a pu être publié officiellement. Pourtant, 50 ans plus tard, cet été, Amougy remonte son festival en Belgique. La plupart des premiers festivals français vont naître en 70, principalement dans le sud, à Antibes, à Biot ou à Aix-en-Provence, où les autorités craignent alors déjà que la foule ne leur échappe. Et le président Pompidou va même s'en mêler. Dans une conférence de presse, au moment des polémiques sur la tenue du festival d'Aix-en-Provence, il dit « Mais je comprends pas pourquoi écouter un concert de pop-musique et pourquoi il faudrait se mettre à 25 000 pour ça, le plus sale possible, pour entendre des musiciens qui se font payer très cher. » Ceci étant dit, tempère quand même le président, je n'ai rien contre la pop musique. Led Zeppelin comparait les festivals de rock à des océans, à des vagues. À mesure que ces festivals ont enflé, que leur public a grossi dans le sillage de Woodstock, des marées humaines toujours plus importantes déferlent dans les champs et les amphithéâtres de verdure. Alors que le plaisir musical du disque avait en quelque sorte sanctuarisé l'écoute et l'appropriation de la musique, où l'auditeur pouvait alors rechercher un message qui le touche ou même entrevoir une image de lui-même dans le miroir des paroles et des mélodies que lui offrait le disque, le festival, au contraire, va déchaîner l'auditeur. Il va le pousser vers l'autre et hors de lui-même. Il pourra faire des choses qu'il ne ferait pas ailleurs. Et l'artiste peut-être aussi, face à des centaines de milliers de visages inconnus, une marée impressionnante.
Pendant les balances dans l'après-midi, je ne me rendais pas compte de l'ampleur de la place où j'étais. Et le soir, il y a 350 000 à 400 000 personnes. Je regarde par derrière. Je dis, moi, j'y vais pas. Hein. Je ne monte pas sur scène. Il y a trop de monde là. J'ai eu un coup de panique. Et moi, j'étais là, je dis, non, mais je ne peux pas y aller. Là. Tu ne vois pas la fin du public. Quoi. C'est un truc, c'est comme une marée, mais énorme, sans fin. Tu vois plus rien, tu vois que des têtes, des kilomètres de têtes. Si, c'est effrayant, mais en même temps, c'est euphorisant parce que les gens chantent chez maman avec l'écho qui continue. Ça donne des frissons.
Alors nous allons chanter cette bénédiction qui se chante comme ceci. Ache maman, ache maman Africa. Ache maman, ache maman Africa. Après vous maintenant.
C'est Angélique Kidjo, routière des grosses scènes internationales ici en concert au Festival de Montreux. Après Woodstock, la plupart des festivals vont tenter de répliquer la magie de cette marée humaine, répliquer la magie de cette utopie qu'ils ont lue ou cru lire ou vivre à Woodstock. Moins de 6 mois après Woodstock, la Californie, de l'autre côté du pays, montre son Woodstock de la côte ouest.
Décidément, il s'en passe des choses en Californie. Ils étaient hier peut-être 500 000 jeunes gens venus écouter et voir le cadeau de Noël, si je puis dire, des Rolling Stones. Je veux parler d'un festival de rock. Décrivez-nous la scène, François Foucard.
Eh bien, des voitures abandonnées par milliers sur les autoroutes et bloquant la circulation. Quelques jeunes gens nus, mais cela n'étonne plus personne. Et un bilan chiffré. Un mort. Un drogué tombé dans un canal en voulant échapper à des agents. Une naissance, c'est le troisième bébé né pendant le festival. Plusieurs centaines de jeunes gens traités pour abus de drogue.
Et voilà. Sport pour Bernard Thébault. La finale du championnat d'Europe des poids lourds restera Paul Laporte, disons un souvenir marquant.
Le premier festival qui se déroule aux États-Unis juste après Woodstock annonce la fin du Peace and Love et le début d'une autre ère. Woodstock a fait rêver, mais le festival d'Altamont sera un cauchemar. En fait, il y aura même 4 morts pendant ce festival qui se déroule sur un circuit automobile. 4 morts, dont un jeune noir poignardé en plein concert par le service d'ordre assuré alors par les Hells Angels, club de motards américains, qui fait la sécurité pour un salaire de $500 en bière.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are.
Le festival d'Altamont 69 est monté par les Grateful Dead et les Stones. Il est gratuit, il a lieu juste avant Noël. Mais ce qui aurait dû être un cadeau, une fête avec Santana, Crosby, Stills, Nash et les Stones, sera en réalité un triste désastre. Comme Woodstock, Altamont a aussi son équipe documentaire qui réalise un film, Give Me Shelter, sorti en 71, un film dans lequel on ne voit pas des spectateurs se baignant paisiblement dans un lac comme dans Woodstock de Michael Waldeg, mais plutôt une ambiance qui dégénère. Pas de toilettes ni de tente médicale, alors qu'il y aura quand même des accouchements. 300 000 personnes au lieu des 100 000 prévues, pour la plupart défoncées à l'acide, coupées au speed. Et puis 3 personnes victimes des dommages collatéraux du LSD, un par noyade et 2 dans un accident de voiture. Mais dans le film, il y a surtout cette autre mort. La nuit est tombée, les Rolling Stones sont sur scène et ils sont obligés de s'arrêter plusieurs fois de jouer à cause des violences qui se déroulent dans le public, juste devant eux. La caméra glisse alors sur des visages tordus par la peur, la défonce et la colère. Et puis, on voit le meurtre au couteau d'un jeune noir, Meredith Hunter, tué par un Hells Angels dans la foule. Aux États-Unis, dans la patrie de Toni Morrison, les violences ou les meurtres de jeunes noirs pendant de grands rassemblements sont alors dans toutes les mémoires, et particulièrement ceux des émeutes du quartier de Watts à Los Angeles. En 1965, à la suite d'une altercation entre un conducteur noir et un policier blanc, pendant un contrôle de police, 6 jours d'émeutes enflamment Los Angeles avec ce slogan « Burn, baby, burn ». Des émeutes qui vont coûter la vie à 34 personnes et changer l'Amérique. En août 72, 7 ans plus tard donc, il flotte alors une curieuse ambiance dans cet immense Stade Memoriam Coliseum de Los Angeles où se tient ce qu'on va appeler le Black Woodstock, un festival pour commémorer les émeutes de Watts, qui réunit 100 000 personnes, presque exclusivement des Afro-Américains. C'est le festival de Watts Stax, monté par le label Stax avec la crème de la soul américaine qui n'avait bien sûr pas été invitée à Woodstock, où la guerre du Vietnam avait d'ailleurs un peu occulté les violences nationales et les morts des ghettos. C'est l'époque des coupes afro de Jesse Jackson et des poings levés.
And now to bring on the Reverend Jesse Jackson. Raise your fists together and engage in our national black litany. Do it with courage.
Alors le révérend Jackson, dans ce stade plein à craquer, dit « Levez votre poing, entrez dans la lutte avec courage et détermination. Dites « Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis peut-être pauvre, mais je suis quelqu'un. Je touche peut-être les allocs, mais je suis quelqu'un. Je suis peut-être pas diplômé, mais je suis quelqu'un. Je suis noir, beau et fier. Je dois être respecté, protégé. Je suis.
What time is it? When we stand together, what time is it? We'll be right back.
Comme Woodstock, cet événement majeur de l'histoire musicale américaine aura aussi son documentaire, un autre, pour immortaliser ce moment historique, un film de Mel Stewart. On y voit défiler une série de stars noires, dont Isaac Hayes, qu'on entend, bien sûr le héros de Shaft, qui est habillé en gladiateur sur scène, mais il y a aussi Albert Collins, Rufus Thomas ou les Staple Singers, bref, des héros qui vont chanter la beauté et la fierté noire dans un pays où l'histoire a fait de leur corps un objet et parfois même un objet de dégoût. She does not know her beauty. She thinks her brown glory. She thinks her brown body has no glory. If she could dance naked under palm trees and see her image in the river, she would know. Yes, she would know. But there are no palm trees in the street. No palm trees in the street. And dishwater gives back no images.
Construire un miroir qui reflète enfin la beauté et la fierté de soi, c'est aussi l'objectif d'un autre festival qui va accueillir des Américains, des Noirs Américains, et notamment des Black Panthers, qui ont installé leur QG dans une capitale africaine en 69. Quand beaucoup de Black Panthers entrent dans la clandestinité aux États-Unis ou qu'ils quittent le pays, certains se retrouvent dans ce festival qui a lieu donc en Afrique, juste avant Woodstock, en juillet 69, c'est le Festival panafricain d'Alger. Une manifestation en forme d'utopie engagée pour la culture qui comporte plusieurs volets, des concerts, des manifestations culturelles dans la rue, une série de conférences avec des intellectuels et même un film documentaire, encore un, commandé cette fois par le pouvoir algérien de Boumediene et réalisé par William Klein, dont on entend ici un extrait, c'est une répétition de Myriam Makeba dans sa chambre d'hôtel. Voilà, bref, un festival pour défendre la culture et les cultures africaines. Again.
Monsieur Edmond Michelet, ministre d'État chargé des affaires culturelles, s'est rendu à Alger, où sur l'invitation du gouvernement algérien, il a assisté à l'ouverture du premier festival culturel panafricain. Les raisons de son voyage et ses impressions, eh bien monsieur Michelet les a confiées à notre correspondant Didier Leca.
J'ai voulu aller là-bas, surtout pour remplacer André Malraux. C'est donc dans un esprit d'amitié avec l'Algérie, avec tout ce qu'elle représente, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour nous Français, que je me suis rendu à Alger. Ce qui m'a frappé, c'est la volonté des Africains, qu'ils soient de l'Afrique noire ou de l'Afrique blanche, de rechercher dans leurs sources les plus profondes et les plus anciennes des motifs légitimes de fierté et d'appartenance à leur terre.
Next song was written for us by my little girl, who's not so little anymore. She's named Bongi. She wrote the song about a great man. I say a great man because it was a black man who fought for liberation, for the liberation of black people. Ladies and gentlemen, Malcolm X. Everybody seems to be preaching revolution. Though no one ever seems to show appreciation. To that man over there who brought about a new generation.
depression.
Voici l'une des grandes voix de ce festival d'Alger, la sud-africaine Myriam Makeba, avec cet hommage à la Black Nation et à Malcolm X, qui lui aussi s'était rendu à Alger avant de mourir. À cette époque, Makeba a fui l'Afrique du Sud, elle est installée à Alger et elle fréquente des Black Panthers comme Eldridge Cleaver, qui a installé son QG à Alger, en face de celui du Fatah de Yasser Arafat. Alger l'indépendante, Alger la socialiste, Alger capitale révolutionnaire africaine. En 69, cela fait déjà 4 ans qu'Arib Oumedienne a pris le pouvoir par les armes. Alors, en organisant ce festival, il se rapproche de sa jeunesse et de son peuple et il s'offre une tribune internationale. C'est d'ailleurs lui qui ouvre ce festival, ce PANAF 69, avec un discours plutôt radical en arabe.
Le premier festival panafricain n'est pas un divertissement général qui nous distrairait de la lutte quotidienne. Il fait partie d'un immense effort pour notre émancipation. Il fait partie du combat que nous continuons tous à mener en Afrique, qu'il soit celui du développement ou de la libération nationale. Le colonialisme est un mal que nous avons tous subi, vécu, dont nous avons triomphé, mais son mécanisme est complexe. Le colonialisme est dans son essence, comme dans son esprit, un acte total. Il ne peut qu'ajouter à sa domination matérielle une emprise sociale et culturelle.
Thank you. This is a very rare evening, and I'm enjoying it. Are you enjoying our show? Are you really? I see about 10 soul brothers out there. You won. And this is our last tune. It's called Revolution, because I see the face of things to come. Oh, the Constitution. For the evil that will happen. Some folks
just to stay alive.
Pendant 15 jours, artistes, intellectuels, écrivains, musiciens, danseurs et militants de la cause noire vont se côtoyer dans toutes les langues à Alger dans un climat révolutionnaire qui unit des acteurs culturels venus d'Angola, des États-Unis, du Sénégal, du Bénin ou même de la Rhodésie qui n'est pas encore devenue le Zimbabwe. Les Algérois assistent alors à un défilé de spectacles gratuits qui mêlent folklore et avant-garde. Et parmi les invités américains, il y a le jazzman Archie Shepp et Nina Simone, dont l'âme révolutionnaire n'est plus approuvée à l'époque, mais qui se fera quand même désirer avant d'être poussée finalement sur scène par sa collègue Myriam Makeba. Dans son livre « Alger, capitale de la révolution », Hélène Moctefi raconte « Avec Myriam Makeba, nous nous étions engagés à faire monter Nina Simone sur scène. Elle s'était barricadée dans sa chambre d'hôtel, le Saint-Georges, en hurlant des insultes. Nous avons dû annuler le premier de ses concerts. À la répétition, le lendemain, le personnel algérien fut abasourdi. Il n'avait jamais vu une femme saoule. » Finalement, malgré le clash culturel entre la vie d'artiste et le quotidien algérois, Nina Simone va se reprendre et elle va même chanter « Ne me quitte pas » de Brel devant le président algérien Boumediene. 2 ans plus tard, c'est le Ghana qui va devenir la capitale temporaire d'un sommet musical entre l'Afrique et l'Amérique pendant le festival Soul to Soul à Accra. Un événement à ne pas manquer pour toute la jeunesse yéyé des années post-indépendance, ceux qui sont dans la gamme, comme on disait à l'époque en Afrique de l'Ouest. Et parmi eux, l'un des plus élégants, c'est peut-être le saxophoniste de l'Orchestre Polyrythmo de Cotonou, un groupe qui télescope les rythmes vaudou et le funk de James Brown. Pierre Loco avait fait le déplacement pour aller voir ses idoles américaines au Ghana en 1971.
Soul to Soul, c'est un rassemblement des chanteurs black américains qui s'étaient retrouvés au Ghana. Ils sont rentrés à la maison, qu'on s'est rentrés sur la terre des ancêtres des AE, et ils ont organisé un grand concert à Accra. Il y avait Tina Turner, il y avait Aretha Franklin, il y avait Sam and Dave, il y avait Wilson Pickett. C'était vers les années 73, c'était l'époque de la soul et de la pop musique. Si tu n'avais pas cela, donc tu n'étais pas branché. Tu n'étais pas dans la gamme, tu n'étais pas yéyé. Il fallait avoir coiffé afro, le coiffé de côté. C'était la belle époque. Ah ouais. Et on marchait façon, c'est bon. On marchait comme si on descendait de la lune, quoi. Wow. Il fallait trouver ça avec les Noirs américains et les Africains branchés, quoi. Moi, j'étais là-bas parce que j'avais déjà un groupe, je jouais la batterie. À ce moment-là, on jouait la soul et la pop musique et le rhythm and blues. Tout le groupe, on est allé à Accra ensemble et on a assisté à cet événement que personne ne devait nous raconter. Donc, nous avions quitté Cotonou, on a traversé le Togo pour aller à Accra. On a pris une caste en trois qu'on a louée à côté de nous, Saint-Place. Et on est allé pour y assister. À ce moment-là encore, il y avait de l'argent. À notre époque, tu ne pouvais pas ne pas chanter James Brown, Otis, et Wilson Pickett, tout ça. Tu ne pouvais pas. Parce que nous faisions ça. Maintenant, on met un peu de notre folklore dedans. On sentait un lien de parenté dans la musique là. Mais ça me donnait la chèvre pour chaque fois que je pense à cet événement parce que pour moi c'était grandiose.
James Brown et son payback qui a fait rêver l'Afrique. Et puis le pape de la Soul participera d'ailleurs au festival politico-musical le plus important pour les relations culturelles afro-américaines qui sont en train de se tisser entre les deux continents dans ces années 70. Un festival organisé 3 ans après celui d'Accra en 74 en marge de la fameuse rencontre entre deux boxeurs, Mohamed Ali et George Foreman.
Back up, sucker. Back up. Come get me, suck. I'm dancing. I'm dancing. Follow me, son. No, I'm not there. I'm here. Whoop.
She's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. This time where she's gone. Wonder if she's gonna stay.
sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away.
Weathers en live au Zaïre en 1974 dans un festival qui a lieu sous le regard sévère du maréchal Mobutu avec des guests américains comme B.B. King, Celia Cruz, La Fania All Stars, mais aussi des stars africaines avec notamment Myriam Makeba, Taboulé Rochereau, Franco ou la Congolaise Abeti. Yeah. Abeti en live à Kinshasa. Alors si l'organisation de concerts et d'événements géants en Afrique reste plus aléatoire et plus complexe qu'en Europe, ces trois festivals africains des années 70 ont définitivement marqué les esprits. Même si, bien sûr, le Woodstock américain a, comme en Europe, laissé des traces dans les mémoires, y compris par exemple au Bénin, où a grandi la chanteuse Angélique Kidjo.
Les journalistes parlaient de Woodstock, c'est la révolution par la musique, les machins comme ça. Les femmes, les filles, elles sont à moitié nues, il y a machin, il y a sexe, drogue et rock and roll. Sexe, drogue et rock and roll est arrivé en Afrique aussi. Donc ces clichés-là, on se bat encore contre aujourd'hui. Ma grand-mère paternelle disait, toi tu montes sur scène avec les instruments du diable. Je dis, mais c'est pas les instruments, c'est le diable. La batterie, c'est les instruments du diable. Mais où est le mal là-dedans? On fait de la musique. Parce que c'est lié à toute cette vague de hippies qui s'est à moitié droguée, les trucs de masse. Ça passe pas, c'est pas bien passé au Bénin. Le rock n'est pas. En dehors de l'Afrique du Sud, le rock, ça, personne, tout le monde s'en fout.
Sugar Man! Won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams.
Et pour se quitter, Sixto Rodriguez et ce titre Sugar Man, ou l'histoire d'un humble et charismatique rocker hippie des années 70 de Détroit qui, par une série de hasards, est devenu une star en Afrique du Sud, sans le savoir. Le film Sugar Man le propulsera dans le monde du showbiz et des festivals en 2012, alors qu'il avait abandonné la musique pour travailler sur des chantiers. Aujourd'hui, notre festival est arrivé sur vos ondes grâce à notre boxeur intrépide et toujours victorieux, l'immense Jean-Christophe Francis à la réalisation, avec aussi notre sound system vivant, Alex Dang à la technique, et aussi un grand merci à notre roadie on the road, Zineb Souleimani, à notre panthère noire, Anne-Lise Signoret de la bibliothèque de Radio France, ainsi qu'à nos sages mémoires des archives INA, Aude Vassan et Christelle Rousseau, sans oublier notre fierté discographique, le proud Romain Couturier à la discothèque de Radio France. C'était La Série Musicale, une émission proposée par Elodie Maillot. À demain. Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man.